Plage 11, dernière salle des appartements et œuvre représentant Henri de Navarre. Vous voici dans la troisième et dernière salle de l'étage. Parcourons-la de gauche à droite et découvrons les œuvres du XIXe siècle qui évoquent la vie d'Henri IV. Sur le mur à gauche de la porte d'entrée, de part et d'autre d'une fenêtre, sont accrochés des tableaux représentant des scènes de la vie militaire. Sur celui de gauche, Henri de Navarre vient visiter Geoffroy de Vivant, blessé, fidèle compagnon de guerre. Devant la fenêtre, une sculpture en plâtre représente Henri en pied. Attention à la mise à distance au pied de l'œuvre. La silhouette est plus grande que nature, car Henri IV mesurait environ 1,60 m. Son image est celle du roi de France, avec des attributs tels que le cordon bleu ou croix de l'ordre du Saint-Esprit et le panache en plume d'autruche. Plus à droite, un tableau représente la bataille d'Ivry, près de Dreux, en 1590. Sur le champ de bataille, des cavaliers et des hommes agonisent. Le peintre Théodore Crétin a donné à tous les personnages le visage d'Henri. Cette bataille est une grande victoire pour les troupes d'Henri IV et une première étape vers la conquête de son royaume. Sur le mur suivant, face à l'entrée, un tableau d'Édouard-Alexandre Audier représente le passage d'Henri IV devant le fort de Montmélian dans les Alpes en 1600. Au premier plan, le roi en armure est sur son cheval. Il est suivi de ses hommes à cheval. Sur la droite se trouvent les assiégés. À droite de ce tableau, au-dessus de la cheminée, une huile sur toile montre les adieux d'Henri IV à Gabrielle d'Estrées, sa favorite. Au centre de la pièce, deux vitrines exposent des objets prêtés par le château de Pau. Le mur plus à droite, donnant sur la cour au sud, est ouvert par une grande fenêtre à meneaux, puis par l'escalier qui mène au rez-de-chaussée. Pour finir, le dernier mur, en retour, expose un tableau de très grand format, la bataille de Coutras. En voici une description détaillée. Les personnes non-voyantes peuvent utiliser deux images tactiles pour le découvrir, une vue générale et un détail de la partie centrale. Cette huile sur toile, réalisée par le peintre Pierre-Jérôme Lordon en 1827, mesure 2,90 m de haut par 4,20 m de large. Ce tableau a été commandé pour orner l'hôtel de ville de Libourne à l'époque de la Restauration, Coutras étant à quelques kilomètres. En effet, après la Révolution, avec le retour des Bourbons sur le trône, un nouvel engouement renaît autour de la figure d'Henri IV. Ce tableau a été restauré et mis en valeur dans cette pièce en 2011. Voici donc l'histoire de la bataille. Nous sommes le 20 octobre 1587, pendant les guerres de religion opposant le protestant Henri, roi de Navarre, à l'armée royale catholique commandée par le duc Anne de Joyeuse. Coutras, petite ville à 60 km environ au nord-est de Bordeaux, devient le lieu de la première bataille remportée par Henri. Le duc de Joyeuse est tué d'un coup de pistolet, ainsi que son jeune frère et 2000 catholiques. Mais Henri est soucieux de préparer la réconciliation avec les catholiques. Il organise, dès le lendemain, des funérailles pour les victimes à Libourne. Henri y accueille des prisonniers qui lui remettent leurs armes. Cette première victoire des réformés sur les troupes royales lui permet de renforcer sa position dans le royaume. Elle sonne aussi le glas de sa présence dans le sud-ouest. En 1589, Henri III de Navarre devient Henri IV, roi de France et de Navarre. Il ne reviendra ni à Nérac, ni à Pau. Revenons au tableau. Il représente de nombreux personnages dans une rue. La partie supérieure de l'image est consacrée au bâtiment. Remarquez en haut à gauche une suite d'arcades avec des arcs brisés. Plus à droite, on distingue des bâtiments aux grandes fenêtres. En dessous, des dizaines de visages se pressent, des curieux à gauche et des soldats à droite, repérables à leur armure et à leur casque à plumes. Sous les arcades, à l'extrême gauche, des protestants sont vêtus de longues robes sombres et de fraises blanches, collerettes froncées autour du cou. Le personnage le plus à gauche est Sully, calviniste, compagnon d'Henri et futur surintendant des finances. Il est représenté de profil, tourné vers la droite, les sourcils froncés. Pour continuer la découverte du tableau, les personnes non-voyantes peuvent désormais utiliser l'autre image tactile. À gauche de cette image de détail, mais en fait à droite de Sully, se trouve un groupe de 3 femmes. 2 sont debout, leurs visages quasiment de face se frôlent presque. Elles portent de longues robes au décolleté horizontal et aux manches bouffantes. La robe de celle de droite est facilement repérable à sa trame de petits points en relief. La troisième est agenouillée à leurs pieds. Sa robe est matérialisée par des traits verticaux en relief. Leurs robes sont rouges, bleues et jaunes dorées. Elles ont les cheveux attachés et portent un petit chapeau, tel un turban noué. Leurs regards émerveillés sont orientés vers Henri. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le ver galant, expression qui désigne les hommes d'âge mûr toujours prêts à séduire. Détaillons maintenant le personnage central, Henri de Navarre. On reconnaît son visage allongé, son nez fin, sa barbe et sa moustache. Sur l'image tactile, il est repérable à son vêtement en relief plein. Remarquez ses grandes bottes d'un brun clair. Les jambes sont recouvertes de chausses, sorte de collants de couleur rouge foncé. Les cuisses sont vêtues d'une culotte bouffante appelée haut de chausses, de couleur orange foncé avec des rayures dorées. Son buste est couvert d'une armure. Ses bras sont ouverts devant lui, vers la droite. Ses mains sont également grandes ouvertes pour accueillir les vaincus. Arrêtons-nous sur 2 ornements ajoutés aux vêtements, non représentés sur l'image en relief. L'un est une grande écharpe blanche, signe de ralliement des troupes protestantes, comme on peut en voir au loin. L'autre est un large ruban bleu, auquel est attachée la croix de l'ordre du Saint-Esprit. Là, le peintre commet une erreur, car Henri n'avait pas encore reçu cet ordre de chevalerie des monarques catholiques. L'ordon veut rappeler qu'Henri de Navarre se convertira au catholicisme. La croix possède 4 branches aux pointes dédoublées. Des fleurs de lys ornent les espaces entre les branches. Au centre est placée une colombe, tête vers le bas. Henri de Navarre regarde les vaincus, à ses pieds, d'un air ni dominateur ni compatissant. À sa droite, un jeune homme debout de profil, tourné vers la gauche, attrape son bras et se penche pour l'embrasser. Sur l'image en relief, son vêtement est matérialisé par de petits traits verticaux. Son autre bras, le long du corps, tient un drapeau blanc orné de fleurs de lys dorées, représenté par des petites croix sur l'image tactile. C'est l'un des prisonniers catholiques qu'Henri a gracié. À sa droite, un autre soldat, vêtu d'une armure et d'un casque, lui tend son épée. Enfin, en bas à droite, un homme est assis dans une posture peu réaliste. Il est de profil, tourné vers la gauche. Sa jambe gauche est repliée sous son genou. Son autre jambe a le pied posé au sol. Elle est légèrement fléchie. Sa chemise est défaite. Il a une épaule et un bras dénudés. L'ensemble de son vêtement est symbolisé par une trame granuleuse sur l'image en relief. Il tient une épée dans sa main à droite. Ici, tout semble figé. Les couleurs sont bien délimitées. Il y a de nombreux effets de draperie, mais les corps sont idéalisés. Les peaux sont claires et lisses. La scène semble étrangement calme. L'artiste produit ici une œuvre de style académique, voire néoclassique, courant artistique qui s'est développé en France à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Nous pouvons même parler de style troubadour, qui consiste à reprendre de manière idéalisée des scènes de l'époque médiévale et de la Renaissance. Pour découvrir la fin de la vie du roi et la naissance de sa légende, écoutez la plage suivante, numéro 12.